Bonjour, bienvenue dans l'émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Histoire 2 est une émission consacrée à la lecture. Histoire de vous raconter des histoires, quoi. Et ce mois-ci, nous poursuivons la lecture de l'ouvrage de Mark Twain, Journal d'Adam, Journal d'Ève, par la lecture du Journal d'Ève. Et oui, le mois dernier, je vous ai lu le Journal d'Adam, et cette fois-ci, nous poursuivons avec le récit de la première femme, la première amoureuse et la première épouse de l'humanité. Toujours avec tendresse et beaucoup d'humour, Mark Twain nous raconte les premiers pas d'Ève dans le jardin d'Éden, sa rencontre avec Adam, sa découverte aussi de la nature et bien évidemment de l'amour qui naît entre Adam et Ève. Bref, une histoire de l'amour, quoi. C'est parti. Samedi. J'ai déjà presque un jour. Je suis arrivée de la veille. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Et en toute logique, c'est comme ça que ça a dû se passer. S'il y a eu une avant-veille, moi, je n'étais pas là quand elle s'est produite, je m'en souviendrai sinon. Naturellement, elle a pu avoir lieu à un de mes moments de distraction. Très bien. Dorénavant, j'ouvrirai les yeux. Plus rien n'échappera à mon attention. Et s'il se reproduit quelque nouvelle avant-veille, je l'inscrirai sur mes tablettes. Mais il serait bon que je fasse ça dans les règles pour éviter toute confusion ultérieure dans mes notes. Mon instinct me dit que ce genre de détail aura son importance un jour pour les historiens. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être une expérience en marche. Je me sens littéralement comme une expérience. Et je défie quiconque de se sentir plus expérience que moi. En conséquence de quoi, j'en arrive de plus en plus à me convaincre que je ne suis finalement que cela. Une expérience. Une simple expérience. Et rien de plus. Mais si c'est bien le cas, l'expérience en question se réduit-elle à moi et à moi seule? Non, je ne le pense pas. Je pense que le reste en fait également partie. J'en suis l'élément essentiel, mais à mon avis, le reste en est aussi partie prenante. Ai-je l'assurance de conserver le premier rôle ou dois-je veiller au grain pour le garder? Je pencherai plutôt pour la seconde solution. Mon instinct me dit qu'une éternelle vigilance est le prix de la suprématie. Quelle belle phrase pour quelqu'un de si jeune. Aujourd'hui, tout a bien meilleure allure. Dans la précipitation qui a marqué la journée d'hier pour réussir à tout boucler à temps, les montagnes s'étaient retrouvées en bien piteux état et quelques plaines tellement encombrées de débris et de petits restes que c'en était parfaitement affligeant. En art, quand l'œuvre est belle et digne de ce nom, hâte et noblesse ne font jamais bon ménage. Et ce monde nouveau, dans toute sa majesté, est indubitablement une œuvre d'art des plus belles et des plus nobles. Merveilleusement proche de la perfection, je dois l'avouer, compte tenu du peu de temps qu'a duré sa création. Il y a bien un peu trop d'étoiles par endroits et pas suffisamment à d'autres, mais je ne doute pas un instant qu'on puisse bien vite remédier à cet état de choses. La nuit dernière, la lune s'est décrochée. Elle a glissé et elle est sortie du cadre. Une perte vraiment cruelle. Ça me fend le cœur rien qu'à y penser. De tous les ornements et décorations du grand projet, aucun ne peut être comparé à sa beauté et à la qualité de sa finition. Elle aurait dû être attachée plus solidement. Oh, si seulement nous pouvions la récupérer. Mais, à l'évidence, il est impossible de savoir où elle est tombée. Qui plus est, celui qui la retrouvera va la cacher. Je le sais parce que c'est exactement ce que je ferai. Je crois pouvoir me montrer honnête sur bien des plans. Mais d'ores et déjà, je me rends compte de ma vraie nature. Ce qui en occupe le cœur et le noyau, c'est l'amour du beau, la passion du beau. Et ce serait de la dernière imprudence que de me confier une lune ne m'appartenant pas, sans en prévenir son propriétaire. Une lune que j'aurais trouvée en plein jour. Je pourrais bien sûr la rendre, simplement par crainte d'avoir été vue. Mais si je la trouvais dans le noir, je suis certaine que j'aurais à me trouver quelque excuse pour ne rien en dire à personne. Parce que, je l'admets, j'aime les lunes. Elles sont tellement jolies et romantiques. J'aimerais bien en posséder 5 ou 6. Jamais plus je n'irai me coucher. Jamais je ne me lasserai de les contempler, tout là-haut, depuis ma petite berge moussue. Les étoiles ne sont pas mal non plus. J'aimerais bien m'en trouver quelques-unes pour les mettre dans mes cheveux, mais j'imagine que ce ne sera pas possible. C'est incroyable comme elles sont loin. On ne le dirait pas à les voir. La première fois qu'elles sont apparues, la nuit dernière, j'ai essayé d'en gauler plusieurs, mais ma perche n'était pas assez longue, ce qui m'a surpris. Je suis ensuite passée au mode de terre, jusqu'à épuisement, mais je n'en ai pas décroché une seule. Ça, c'est parce que je suis gauchère et que je ne sais pas bien lancer. Même en visant la mauvaise, je n'avais jamais pu toucher la bonne. C'est vous dire. Mais à quelques occasions, je ne suis pas passée loin. Au moins 40 ou 50 fois, j'ai vu de mes yeux la boule noire de ma motte arriver au milieu des grappes dorées. Et chaque fois, elle les a ratées d'un cheveu. Si j'avais montré un peu plus de constance, peut-être que j'aurais réussi à en décrocher une. Alors j'ai versé quelques larmes. Rien de plus naturel, je suppose, pour une personne de mon âge. Je me suis reposée, j'ai pris un panier, je suis partie vers l'extrémité inférieure du demi-cercle, là où les étoiles touchaient presque la terre et où je pourrais les ramasser à la main, ce qui serait à tous égards préférable. J'allais pouvoir les cueillir délicatement avec tendresse, sans risque de les meurtrir. Mais c'était plus loin que je ne l'avais cru et finalement j'ai dû renoncer. J'étais tellement fatiguée que je n'aurais pas pu faire un pas de plus. D'ailleurs, j'avais les pieds endoloris et ils me faisaient très mal. Impossible de revenir à la maison, c'était trop loin et il faisait froid. Mais j'ai trouvé un groupe de tigres et je me suis pelotonnée contre eux. C'était merveilleusement douillet. Ils avaient la laine sucrée et tellement agréable. Les tigres ne se nourrissent que de fraises. Jamais encore je n'avais vu de tigres, mais je les ai immédiatement reconnus grâce aux rayures. Si je pouvais me trouver une de ces peaux, ça ferait vraiment une robe superbe. Aujourd'hui, je commence à avoir une meilleure appréciation des distances. J'étais tellement impatiente de posséder toutes les jolies choses devant mes yeux que je tendais la main comme une étourdie. Tantôt elles étaient trop loin, tantôt trop proches, à peine 15 cm qui en paraissaient le double, sans même parler des épines qui m'en séparaient. Mais ça m'a servi de leçon. J'ai également édicté un grand principe, moi toute seule, avec ma tête à moi, mon tout premier. L'expérience égratignée se méfie des épines. Je trouve qu'il est vraiment bien pour quelqu'un de si jeune. Hier après-midi, j'ai suivi l'autre expérience de loin pour tenter de voir à quoi elle pouvait servir. Mais je ne suis pas parvenue à mes fins. Je crois que c'est un homme. Je n'en avais encore jamais vu, mais ça y ressemblait fort. Et je suis sûre de ne pas me tromper. Je me rends compte qu'il pique ma curiosité bien plus qu'aucun autre reptile. Si c'est bien un reptile, comme je le suppose, ça ressemble à un reptile en tout cas, avec des cheveux négligés et des yeux bleus. Ça n'a pas de hanches, c'est taillé en pointe, on dirait une carotte. Et quand ça se redresse, ça s'étire de partout, on dirait un déric. Alors je pense qu'il s'agit bien d'un reptile, mais ça pourrait aussi être un élément d'architecture. Au départ, j'en ai eu peur. Et chaque fois que ça se retournait, je partais en courant parce que je pensais que ça allait me poursuivre. Mais petit à petit, quand je me suis aperçue que ça cherchait tout bonnement à prendre le large, toute ma timidité s'est envolée et je l'ai pisté, plusieurs heures durant, à une vingtaine de mètres de distance. Il était très mal à l'aise et ça lui a fortement déplu. Finalement, l'inquiétude l'a emporté et il a grimpé dans un arbre. J'ai attendu un bon moment avant de laisser tomber et je suis rentrée. Aujourd'hui, exactement la même chose. Je l'ai encore fait grimper à l'arbre. Dimanche. Le reptile est toujours là-haut. Il se repose apparemment, mais c'est une ruse. On ne se repose pas le dimanche. C'est le samedi qui est consacré à ça. J'ai l'impression que cette créature s'intéresse plus au repos qu'à tout le reste. Moi, ça me fatiguerait de me reposer autant. Déjà que ça me fatigue de rester là, assise à surveiller l'arbre. Je me demande à quoi elle peut bien servir. Je ne la vois jamais rien faire. Ils ont remis la lune la nuit dernière. Qu'est-ce que j'étais contente. C'est vraiment honnête de leur part, je dirais. Elle a encore glissé et elle est retombée, mais je me suis beaucoup moins inquiétée. Inutile de faire trop de soucis avec des voisins aussi prévenants. Ils iront la récupérer. J'aimerais bien faire quelque chose pour leur montrer que j'apprécie leurs gestes. Leur envoyer quelques étoiles, peut-être, car nous en avons plus qu'il n'en faut. Je devrais dire « je », pas « nous », car je vois bien que le reptile se fiche complètement de ce genre de choses. Ses goûts sont d'un vulgaire. Et la gentillesse connaît pas. Quand je suis allée là-bas, hier soir, entre chien et loup, il est redescendu en douce de son perchoir en essayant d'attraper les petits poissons mouchetés qui jouent dans l'étang. Il a fallu que je lui balance des mottes de terre pour l'obliger à remonter dans son arbre et laisser les poissons tranquilles. Je me demande si c'est à ça qu'il sert. Il n'a donc pas de cœur. Il n'a donc aucune compassion pour ces petites créatures. Est-il concevable qu'il ait été conçu et fabriqué pour un dessin aussi peu délicat? Il en a tout l'air en tout cas. Une des mottes l'a touché derrière l'oreille et il a utilisé le langage. J'en ai été tout excitée parce que c'est la première fois que j'entendais des mots et des phrases qui n'étaient pas les miens. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais ça m'a paru très éloquent. J'ai éprouvé un regain d'intérêt pour le reptile quand je me suis aperçue qu'il savait parler, parce que j'adore parler. Je parle toute la journée, et aussi dans mon sommeil. Mais j'ai de la conversation et elle est intéressante. Si j'avais quelqu'un à qui parler, je pourrais être deux fois plus intéressante encore, et je n'arrêterais plus, si besoin était. Si ce reptile est un homme, ce n'est pas un neutre, n'est-ce pas? Ce ne serait pas correct, grammaticalement parlant. Vous êtes bien d'accord? Je crois qu'il faudrait dire « il ». Je le pense vraiment. Et en ce cas, il faudrait l'accorder comme suit. Sujet « il », complément d'objet « le », complément d'attribution « lui ». Admettons que je le considère comme un homme et que je l'appelle « il » jusqu'à ce qu'il se révèle être autre chose. Ça serait toujours plus commode que de vivre dans l'incertitude. Dimanche, semaine suivante. Je lui ai collé au basque toute la semaine et j'ai tenté de faire connaissance. J'ai été obligée de faire les frais de la conversation tellement il était timide. Mais ça ne m'a pas gênée. Il a eu l'air heureux de me voir dans les parages. Et j'ai eu recours au « nous » inclusif. Socialement parlant, et il m'a paru flatté de ne plus faire bon à part. Mercredi. Nous nous entendons très très bien à présent. Je dirais même de mieux en mieux, à mesure que nous faisons plus ample connaissance. Il n'essaie plus de m'éviter, ce qui est bon signe, et me montre qu'il apprécie ma compagnie. Cela me ravit, et je cherche à lui être utile autant que faire se peut, de manière à éveiller son intérêt plus avant. Au cours de ces deux derniers jours, afin de le libérer de ce fardeau, j'ai repris totalement à mon compte la charge de nommer les choses, ce qui l'a grandement soulagé car il n'est pas très doué pour cette fonction et, de toute évidence, il m'en est très reconnaissant. Même pour se rattraper, il est totalement incapable de donner un nom logique à quoi que ce soit. Mais je ne lui laisse pas voir que je connais son défaut. Chaque fois qu'apparaît une nouvelle créature, je la nomme sans lui donner le temps de s'exposer au ridicule par un silence maladroit. De cette manière, je lui ai épargné bien des embarras. Moi, je n'ai pas son défaut. À la minute où je pose les yeux sur un animal, je sais ce que c'est. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Le nom correct me vient immédiatement, comme s'il m'était inspiré. Ce qui est sans doute le cas, car je sais que je ne l'avais pas en moi 30 secondes auparavant. Il semblerait que je sache, rien qu'à sa forme et à sa façon de se comporter, de quel animal il s'agit. Jeudi. Mon premier chagrin. Hier, il m'a évité et semblait souhaiter que je ne lui adresse plus la parole. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit que c'était un simple malentendu. Moi, j'adorais sa compagnie. J'adorais l'entendre parler. Alors comment pouvait-il se montrer aussi injuste à mon endroit alors que je n'avais rien fait? Mais c'est pourtant ce qui s'est passé, au bout du compte. Alors je suis repartie et je me suis assise en solitaire à l'endroit où je l'avais aperçu la toute première fois, le matin de notre fabrication, quand je ne savais pas qui il était et que je me souciais de lui comme d'une guigne. Mais l'endroit était devenu tout triste. Chaque petite chose me parlait de lui et j'avais le cœur serré. Je ne savais pas trop pourquoi, à vrai dire. C'était un sentiment tout nouveau que jamais encore je n'avais éprouvé. Tout cela était un grand mystère que je n'arrivais pas à élucider. Mais quand la nuit est tombée, comme je ne pouvais plus supporter de me sentir aussi seule, je me suis rendue au nouvel abri qu'il s'était construit, pour lui demander ce que j'avais fait de mal et comment je pouvais réparer et regagner son affection. Mais il m'a fichu dehors sous la pluie. Et ça, ça a été mon premier chagrin. Dimanche. Les choses se sont arrangées et je suis heureuse. Mais qu'est-ce que ces journées ont été pénibles? J'évite d'y penser autant que faire se peut. J'ai essayé de lui procurer quelques-unes de ses pommes. Malheureusement, je lance toujours aussi mal, mais je crois que l'intention lui a fait plaisir. elles sont interdites et il dit que je vais m'attirer des ennuis. Mais que m'importent les ennuis si je lui fais plaisir? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Vendredi. Je l'ai revu, lui, un bref instant, lundi dernier à la nuit tombée. Mais ça n'a pas duré. J'espérais qu'il allait me féliciter pour tous les efforts que je mettais en œuvre afin d'améliorer le domaine, car j'avais mis du cœur à mon ouvrage et travaillé dur. Mais il n'était pas content. Il m'a tourné le dos et il est reparti. Il faisait aussi la tête pour une autre raison. J'avais essayé une fois de plus de le dissuader de descendre les chutes. La raison en est que le feu, que je viens de découvrir, m'avait révélé une passion encore inconnue, tout à fait nouvelle et totalement différente de l'amour, du chagrin et de celle que j'avais déjà découverte. La peur. C'est horrible. Je regrette de l'avoir connue. Elle me vaut des moments bien sombres. Elle me gâche tout mon bonheur. Elle me fait frémir, trembler, frissonner. Mais je ne suis pas parvenue à le convaincre. La peur, il ne sait toujours pas ce que c'est. Alors, il ne pouvait pas me comprendre. Mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui. Tout ce temps sans le voir. Ça fait long quand on est toute seule. Mais mieux vaut être seule que non désirée. J'ai appris des tas de choses et me voilà instruite de ce que je n'étais pas au départ. Au départ, j'étais complètement ignorante. Au départ, ça me vexait d'ailleurs, car malgré toute ma vigilance, je n'avais pas assez de jugeote pour assister de visu à la remontée des eaux vers l'amont. Mais aujourd'hui, ça m'est égal. J'ai fait des expériences, encore et encore. Et je sais maintenant que les eaux ne remontent jamais vers l'amont, sauf quand il fait nuit. Je sais que c'est ce qu'elles font la nuit, parce que l'étang ne s'assèche jamais. Ce qui serait inévitable si les eaux ne redescendaient pas la nuit. Il est toujours préférable de valider les choses par l'expérimentation concrète. Ensuite, vous savez. Alors que si vous vous fiez à l'intuition, aux suppositions et aux conjectures, jamais vous ne serez instruit. Il y a des choses qui, tout bonnement, ne se prouvent pas par l'expérience. Mais vous ne le saurez jamais. Si vous vous fiez uniquement à des intuitions et des suppositions, non, vous devez vous montrer patient et continuer vos essais jusqu'à ce que le travail pratique de l'expérimentateur lui prouve qu'il ne peut pas prouver. Et c'est un vrai délice qu'il en soit ainsi. Le monde s'en trouve tellement plus passionnant. S'il n'existait rien à prouver, ce serait d'un ennui. Le simple fait d'essayer de confirmer et d'infirmer au final est tout aussi passionnant que d'essayer de confirmer pour finir par confirmer, pour ne pas dire plus. À vrai dire, le secret des eaux était un trésor jusqu'à ce que je pige le truc. Ensuite, le charme a été rompu. L'excitation a disparu et j'ai eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Par expérience, je sais que le bois flotte, tout comme les feuilles sèches, les plumes et des tas d'autres objets. En conséquence, grâce à tout cet éventail de preuves cumulées, vous savez qu'une pierre flotte. Mais vous devez accepter l'idée de simplement le savoir, car il est impossible de le prouver en l'état actuel des choses. Mais je trouverai un moyen. À la suite de quoi cette excitation-là aussi aura disparu. Ouais, ça me rend triste. Car petit à petit, lorsque je serai parvenue à tout prouver, rien n'aura plus le moindre charme. Fini les découvertes excitantes, alors que j'aime tellement l'excitation de la découverte. L'autre nuit, rien que d'y penser, je n'ai pas réussi à dormir. Au départ, je ne parvenais pas à comprendre pourquoi j'étais faite. Maintenant, je pense que c'est pour sonder les secrets de ce monde merveilleux, être heureuse et remercier le grand donateur d'avoir conçu tout cela. Je pense qu'il me reste encore bien des choses à apprendre, je l'espère en tout cas. Et si je m'économise et que je ne me presse pas trop, je pense qu'elles me dureront des semaines et des semaines, je l'espère en tout cas. Vous lancez une plume vers le ciel, elle vogue dans les airs et disparaît à votre vue. Ensuite, vous lancez une motte de terre, et alors rien du tout. À chaque fois, elle retombe. J'en ai fait des essais, encore et encore, toujours avec le même résultat. Je me demande bien pourquoi c'est comme ça. Bien sûr qu'elle ne retombe pas. Mais pour quelle raison en ai-je, moi, l'impression? Je suppose qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Je veux dire, pour l'un comme pour l'autre des deux termes de l'expérience. Mais je ne sais pas lequel. Ça peut être la plume, ça peut être la motte. Mais je ne parviens pas à démontrer de manière absolue où se situe l'illusion. Je ne peux démontrer qu'une chose. Plume ou motte, l'une des deux est un imposteur. Ensuite, je laisse à chacun le droit de choisir.
Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? Un dieu nous y gavait d'oranges et de cerises, mais une pomme un jour provoqua son courroux et nous voilà dehors, sans même une valise, sous l'orage et l'éclair, marchant droit devant nous. Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? On cherchait un abri sous l'orage qui cogne. Le ciel pleuvait des larmes, tu pleurais de la pluie. Pas l'ombre d'un palais, pas même un hôtel borgne. Allons donc chez le diable, il n'était pas chez lui. Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? Des siècles ont passé et nous voici ce soir dans cette chambre obscure sous un toit de Paris, avec le paradis au fond de la mémoire et des disques de jazz au pied de notre lit. Oh Ève, Ève, mon petit, te souviens-tu du paradis? Allons, viens près de moi, sans craindre de discorde. Le pommier de ton corps ne m'est plus interdit. Et si Dieu de nouveau défend et que j'y morde, laisse-moi le chasser de notre paradis. Oh Ève, 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 Ève.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Histoire 2. Poursuite de la lecture du journal d'Ève selon Mark Twain. Après la chute. Avec le recul, le jardin reste pour moi un rêve. Il était beau, d'une beauté sans égale, d'une beauté enchanteresse. Il est perdu aujourd'hui et je ne le verrai plus. Le jardin est perdu, mais lui, je l'ai trouvé et je suis satisfaite. Il m'aime autant qu'il le peut. Moi, je l'aime de toute la force de cette nature passionnée qui caractérise, je crois, ma jeunesse et mon sexe. Lorsque je me pose la question « Pourquoi je l'aime ?», je m'aperçois que je ne sais pas ni ne me soucie guère de savoir, à vrai dire. J'en conclus donc que ce genre d'amour n'est pas le résultat du raisonnement ni des statistiques, au contraire de celui que l'on peut porter aux reptiles et aux animaux. Et je pense qu'il faut qu'il en soit ainsi. J'aime certains oiseaux pour leur chant, mais je n'aime pas Adam pour sa façon de chanter. Non, ce n'est pas ça. Plus il chante, plus j'ai de mal à me convaincre de son talent dans ce domaine. Ce qui ne m'empêche pas de lui demander de chanter, parce que je désire connaître tout ce qui l'intéresse. Je suis sûre que je peux apprendre, parce qu'au début, ces ramages m'étaient intolérables, alors que maintenant je les supporte. Ils font tourner le lait, mais peu importe, je saurais bien m'y faire à ce nouveau genre de laitage. Je ne l'aime pas pour son intelligence, non, ce n'est pas ça. Elle est ce qu'elle est, mais on ne peut pas la lui reprocher parce que ce n'est pas lui qui l'a fabriquée. Il est comme Dieu l'a fait, et c'est suffisant. Elle correspond, et cela je le sais, à quelques vastes et sages desseins. Avec le temps, elle se développera, même si je suis convaincue que cela ne se fera pas en un jour. Mais il n'y a pas d'urgence. Tel qu'il est, il me plaît. Je ne l'aime pas pour ses façons raffinées et courtoises, ni pour sa délicatesse. Il a incontestablement des lacunes dans ce domaine, mais tel qu'il est, il me plaît. Il me plaît déjà suffisamment et il s'améliore de jour en jour. Je ne l'aime pas pour le cœur qu'il met à ses ouvrages. Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est dans sa nature et je ne sais pas pourquoi il essaie de s'en cacher. C'est ma seule douleur. Sinon, il est franc et ouvert à mon égard, désormais. Je suis sûre qu'il ne me cache rien, cela mis à part. Ça me chagrine profondément qu'il ait des secrets bien à lui, au point que ça perturbe parfois mon sommeil quand j'y pense, mais je vais chasser ça de mon esprit. Je ne vais pas gâcher mon bonheur qui, par ailleurs, est tellement plein qu'il en déborde. Je ne l'aime pas pour son instruction. Non, c'est pas ça. C'est un autodidacte et c'est vrai qu'il connaît une multitude de choses, mais est-ce du savoir ? J'en doute. Je ne l'aime pas pour son esprit chevaleresque. Non, c'est pas ça. Il m'a mouchardée, mais je ne l'en blâme pas pour autant. C'est une caractéristique de son sexe, et je pense, et son sexe, il ne l'a pas choisi. Bien sûr que moi, jamais je ne l'aurais mouchardée. Autant mourir, mais ça aussi, c'est une particularité de mon sexe, et je n'en tire aucune gloire, car c'est mon sexe et je ne l'ai pas choisi. Alors, comment se fait-il que je l'aime ? Simplement parce que c'est un homme, je pense. Le fond de sa nature, c'est la bonté, et je l'aime pour ça. Mais je pourrais tout aussi bien l'aimer sans. S'il me battait, s'il me maltraitait, je continuerais à l'aimer malgré tout. Je le sais. C'est une question de sexe, je pense. Il est fort, il est beau, et c'est pour ça que je l'aime. Je l'admire, et je suis fière de lui, mais je pourrais l'aimer sans ses qualités. S'il était beau comme Monsieur Tout-le-Monde, je l'aimerais encore. Si c'était une épave, je l'aimerais encore. Et je travaillerai pour lui, je me mettrai en quatre pour lui, je prierai pour lui et je veillerai à son chevet jusqu'à ma mort. Oui, je pense que je l'aime tout bonnement parce qu'il est homme et qu'il est à moi. Il n'y a pas d'autre raison, j'imagine. Et c'est donc bien ce que je disais au départ. Ce genre d'amour n'est pas le résultat du raisonnement ni des statistiques. Il vous vient, personne ne sait d'où et ne peut pas s'expliquer. Et il n'en a nul besoin. Voilà ce que je pense. Mais je ne suis qu'une fille, la toute première d'entre les filles à m'attaquer à ce problème. Et il se pourrait bien, par mon ignorance et mon inexpérience, que je n'ai pas tout compris comme il se devait. 40 ans plus tard, je n'ai qu'une prière, qu'un seul désir, que nous puissions quitter cette vie ensemble. Et ce désir jamais ne périra de la surface de cette terre. Il aura sa place dans le cœur de toute épouse aimante jusqu'à la fin des temps et portera mon nom. Mais si l'un de nous deux doit partir avant l'autre, que ce soit moi. C'est aussi ma prière, car lui il est fort et moi je suis faible. Lui m'est indispensable, moi je le suis moins. Sans lui la vie ne serait pas une vie, comment pourrais-je la supporter? Cette prière est aussi immortelle. Elle ne cessera plus jamais d'être invoquée tant que ma race perdurera. C'est moi, la première épouse, et la dernière épouse sera faite à mon image. Sur la tombe d'Ève. Adam, en quelque lieu qu'elle eût été, c'est là que se trouvait l'Éden. Ainsi s'achève l'émission Histoire 2 du mois de novembre. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire. Entre-temps, vous pouvez aller sur le site internet de l'émission, émissionhistoire2.free.fr, pour écouter cette émission, les autres, pour podcaster également l'émission. Voilà, nous avons entendu le titre « Le paradis » interprété par Claude Nougaro, tout à fait de circonstance par rapport à cette lecture du journal d'Adam et du journal d'Ève de Mark Twain. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Bye bye.